bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de votre radio locale préférée et des saisons Radio Assivière. Ici Nini Villegas et dans cette deuxième partie de notre épisode Drosera, je vous amène dehors dans la nuit après la découverte en salle. Place à l'expérience sensorielle, nous sortons à l'écoute des chauves-souris. Armés des enregistreurs à ultrasons, nous captons les cris invisibles des chiroptères et découvrons comment ces animaux s'orientent, chassent et communiquent. C'est une immersion unique, presque magique, qui nous permet de mieux comprendre et apprécier ces créatures trop souvent entourées de mystères. Alors, tendez l'oreille, la nuit s'anime et les chauves-souris nous révèlent un autre visage du vivant.
Voilà. Les jeunes sont volants, on retrouve un peu de liberté. Et là, donc, c'est de nouveau une période de transit entre l'été et l'hiver. Donc, on reprend la route aussi. Et là, on trouve des gîtes de swarming, donc des gîtes d'essaimage. Donc, ça va être des endroits où il y a des populations qui vont se rencontrer et où il va y avoir du brassage génétique. Donc, on va avoir des harems qui vont se constituer d'un mâle avec plusieurs femelles, par exemple. Ça, c'est des observations qui ont été faites sur des suivis dans des... grâce à des gîtes artificielles qui sont contrôlées en journée, donc toujours brièvement et en faisant très attention au dérangement. Et du coup, ils ont pu observer qu'il y avait un mâle avec, par exemple, 2-3 femelles. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a la reproduction, donc, l'accouplement. Donc, on a dit qu'il peut aussi en avoir quelques-uns l'hiver sur les phases du réveil, mais c'est vraiment plutôt à l'automne où on commence à avoir l'accouplement. Donc l'automne, c'est pas vraiment l'automne, c'est en fait dès la mi-août jusque fin septembre, début octobre. Et ensuite, là, dès qu'il y a les premiers coups de froid, les chauves-souris vont commencer à entrer en hibernation. Voilà. Donc là, c'est...
Pardon. Des combats entre les mâles pour...
Alors, pas des combats où ça va se taper directement. En tout cas, pas à ma connaissance. Par contre, on a du marquage, on a des comportements territoriaux. Par exemple, chez les noctules, donc c'est des espèces qui sont assez arboricoles, on peut avoir... des mâles qui se posent sur le tronc et qui vont marquer l'arbre de leurs odeurs, donc ils ont des glandes dans la bouche. Et ils se frottent aux arbres en fait pour montrer que c'est leur territoire. Et il peut y avoir aussi des places de champ pour attirer les femelles. Voilà, mais pas de combat vraiment entre mâles. Ils sont sympas entre eux. Ouais. Voilà, donc accouplement à l'automne, hibernation, puis au printemps, c'est la gestation. Donc ça veut dire qu'il y a l'accouplement, mais la gestation ne va pas être lancée tout de suite. Donc il va y avoir l'ovulation, mais en fait, toutes les gamètes mâles vont être stockées dans l'utérus, dans l'ovule, et va être conservée
tout l'hiver.
Voilà, tout l'hiver. Voilà, et ensuite, on les ressort au printemps. Si, quand même des choses assez importantes chez les chauves-souris. Donc là, on a toute la gueule, le petit museau, et puis là, on a des oreilles qui sont assez grandes à chaque fois chez les espèces, plus ou moins selon les espèces, mais qui sont quand même généralement assez grandes. Et dans cette oreille-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite pointe, c'est le tragus de la chauve-souris. Donc nous aussi, on a le tragus, c'est la petite partie ronde là, de notre oreille. Et chez les chauves-souris, ça, c'est très développé, et ça leur permet notamment de capter les sons. Et c'est un critère assez important qu'on regarde, ce qu'on regarde le plus en fait dans l'identification des chauves-souris. Donc notamment l'hiver quand elles sont posées. Donc bien sûr, on regarde l'aspect global, la taille, un peu la couleur, la posture, l'endroit où est-ce qu'on l'a trouvé. Mais très rapidement, on regarde les oreilles. Est-ce qu'elle a un grand tragus, un petit, est-ce qu'il est pointu, est-ce qu'il est rond? Ça, c'est vraiment très important. Donc, elle voit très bien la nuit, là-dessus on a une bonne vue. Mais bon, quand il fait nuit, même si on a une bonne vue, c'est pas toujours simple de bien voir et de bien chasser surtout. Donc il y a effectivement l'écholocation ou l'écholocalisation, on peut dire les deux. Donc, les colocations, le principe est très... Enfin, non, il n'est pas très simple, mais on va le simplifier. Et d'ailleurs, il a fallu qu'on invente le radar pour comprendre comment les chauves-souris fonctionnaient. Sinon, on ne savait pas ce qu'elle faisait. Donc là, par exemple, donc ça, c'est un grand rhinolophe en photo. Donc j'en profite, du coup. Le rhinolophe, d'où son nom, ça vient de son nez, de sa feuille nasale, en fait. Il ne va pas avoir un petit museau pointu, mais il a un museau qui est en fer à cheval, et c'est avec ça que lui va pouvoir émettre des ultrasons. Donc lui, il peut émettre en continu, mais on n'entend pas cette phase de capture où il va s'arrêter pour manger, justement. C'est, voilà, le petit zoom dot. Donc notre chauve-souris, elle émet des cris. Et ce cri, quand il va atteindre un obstacle, donc par exemple que ce soit un mur, un arbre, ou encore mieux une proie, donc le cri va rebondir et la chauve-souris va capter cet écho qui va lui permettre d'avoir des informations sur la distance de la proie ou de l'obstacle, sa position dans l'espace, et est-ce que j'accélère pour le manger ou est-ce que je fais un crochet pour éviter l'arbre. Voilà.
Et elle reconnaît son... Sans qu'elle aime.
Ah oui, oui.
Ça, pas qu'elle... Il ne peut pas y avoir de...
Des fois, elle se rate. Hein. Par exemple, des fois, il y a des phases de capture où ça aboutit pas. Ça arrive. Mais par contre, oui, elle reconnaît son propre cri. Et d'ailleurs, si on a, par exemple, deux pipistrelles communes qui chassent toutes les deux au même endroit, on peut observer qu'un des individus va se décaler un petit peu en fréquence. Il y en a un qui va mettre un petit peu plus haut et l'autre un peu plus bas. Pas trop se brouiller, justement, entre...
Mais nous, on n'entend pas ces cris-là.
Non, exactement. Donc ça, c'est des ultrasons. Donc les ultrasons, c'est tout ce qu'on va retrouver au-dessus de 20 kHz, puisque c'est notre limite à nous. Nous, on entend jusqu'à 20 kHz. Donc les chauves-souris, généralement, elles émettent des cris de d'écolocalisation au-dessus de 20 kHz. Sauf quelques espèces. Donc on a, par exemple, le molosse de Cestoni. C'est l'espèce qui émet le plus bas en métropole, mais qu'on a pas encore ici, mais peut-être un jour. On en a eu en limite Corrèze sud. Donc lui, il est mis très bas, il est mis autour de 12 kHz, donc on peut l'entendre à l'oreille. C'est assez sympa. Et il y a aussi la grande noctule, donc qui est plutôt vers 15-20 kHz. C'est pas une fréquence pile, elles ont toute une fourchette, bien sûr, où ça peut varier. Donc elle aussi, on peut l'entendre un peu à l'oreille. Et sinon, toutes les autres vont être soit autour de 20, il y en a qu'un peu à la limite, mais sinon c'est au-dessus, et ça peut monter jusqu'à 110-115 kHz pour le petit rhinolophe. En métropole, parce que par exemple en Guyane, ça monte, je crois, jusqu'à 150. Oui. Voilà, on en parle depuis tout à l'heure, donc ça, c'est assez divers finalement selon les espèces et selon les endroits où elles se trouvent. Donc beaucoup dans les bâtiments, donc que ça soit des églises, nos maisons, et dans un même bâtiment, elle peut se mettre à plein d'endroits différents. Par exemple, une chauve-souris, elle peut être dans la cave l'hiver et puis l'été monter soit derrière les volets, soit dans les combles. Ça peut se mettre aussi dans les anfractuosités, dans une façade. Derrière les volets, entre des poutres. Souvent, en fait, dès qu'il y a des petites anfractuosités, c'est assez intéressant pour la chauve-souris. Voilà. On en retrouve aussi pas mal sous les ponts. Donc, pareil, soit dans les petits trous ou dans les corniches où il y a des espaces. Dans les grottes, bien sûr. Et on en a déjà parlé. Mais aussi dans les arbres. Donc là, par exemple, on a un mur à oreille chancrée. Genre, je ne sais pas si vous voyez d'ici. Mais notre mur à oreille chancrée, il est ici, là je monte son museau. Là on a une oreille et une deuxième. Et donc lui il est sous une écorce. Et donc là-bas c'est aussi sous une écorce. C'est pas évident de prendre des photos sous les arbres, souvent sous les écorces. Mais là-bas ce sont des barbastelles d'Europe. Donc c'est une chauve-souris qui est toute noire. Elle a des grandes oreilles qui se touchent au milieu de la tête. Et elle aussi elle a un nez un petit peu particulier, puisqu'elle va émettre par le nez et aussi par la bouche. Trop forte. Et ça, c'est la chauve-souris la plus spécialisée en termes de sonar, puisqu'elle elle se nourrit exclusivement de papillons de nuit qui sont tympanés. Donc, c'est des papillons qui, à la base, c'était adapté pour ne pas se faire manger par la chauve-souris. Elle les entend arriver, elle pourrait se barrer. Et finalement, la chauve-souris, la barbastelle, elle va émettre un coup par la bouche, un coup par le nez. Ce qui fait qu'en fait, les papillons ne vont pas entendre de phase d'approche. C'est comme s'il y avait deux chauves-souris, mais qui étaient loin. Et finalement, elle est juste à côté. Donc, plutôt balèze. Et puis là, on a, sur la photo, donc, on a un petit oreillard qui sort donc là, d'un trou de cavité. Voilà. Donc, les arbres, ça a quand même un rôle très important dans le cycle de vie des chauves-souris, puisque donc, c'est des gîtes. Donc, il y a plusieurs types de cavités qui sont utilisées. Donc, les écorces décollées, on en a vu. Les trous type loge du pic, les branches d'arbres, les fentes sont dans les arbres. En fait, dès qu'il y aura des espaces, ça peut être exploité par les chauves-souris. On a tendance maintenant à observer que c'est surtout les arbres vivants qui vont en fait être plus utilisés, parce que plus isolants aussi, notamment l'hiver, puisqu'on a des chauves-souris qui vont hiberner carrément dans les arbres, comme la barbacelle par exemple. Voilà. Là, c'est pour montrer un peu différents types de gîtes. Avec des arbres qui sont plus ou moins gros et avec des cavités qui peuvent être très diverses. Et là aussi, c'est un exemple, un schéma. Donc là, on a plusieurs loges de pic dans un arbre. Et donc, on peut voir après à l'intérieur ce que ça donne. Donc là, il faut imaginer qu'on a donc, un premier trou dans le tronc et un deuxième. Donc de l'extérieur, on voit une coulée de guano sur l'arbre. Donc là, c'est un bel indice de présence. Généralement, quand on voit ça, on est content. Et au-dessus, bah, donc les chauves-souris se mettent là et finalement vont plutôt sortir par ici et le guano va se stocker au fond. Et après, dans les chauves-souris arboricoles, là aussi on va avoir différents comportements, on va avoir des espèces qui vont être plus ou moins fidèles à un gîte, mais très souvent ce qu'on observe c'est qu'elles changent très régulièrement. Donc elles vont vraiment avoir un réseau d'arbres favorables à leur gîte et elles vont les exploiter tout au long de la saison. Donc c'est très important d'avoir des arbres favorables, mais surtout d'avoir des arbres favorables dispersés et tous reliés entre eux. Pour qu'il soit fonctionnel. Quoi, tout simplement. Voilà. Donc, ça, on en a déjà aussi un petit peu parlé. Mais donc, les habitats de chasse sont divers, là aussi selon les espèces, puisque ça va dépendre de leur régime alimentaire et de leurs spécifications. Mais globalement, les terrains de chasse, c'est partout où on retrouve des insectes. Voilà. Donc au-dessus de l'eau, généralement, c'est bonne pioche, on est sûr d'avoir des chauves-souris. On a le murin de Daubenton, qui est une petite chauve-souris qui est spécialisée en milieu aquatique. Après, donc, dans les prairies, le long des haies, des lisières. Donc les haies et le bocage, c'est des milieux extrêmement importants pour nos chauves-souris, puisque ça permet d'avoir en fait une très bonne perméabilité des espaces. Ça leur permet d'avoir des repères dans le paysage pour se déplacer. C'est-à-dire que la chauve-souris, elle va émettre des ultrasons, et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir se guider en fait et se déplacer donc, de son gîte vers les habitats de chasse. Voilà. Et bien sûr, donc, dans la forêt, puisque nos arbres sont favorables au gîte des chauves-souris, mais c'est aussi des habitats pour plein d'autres animaux, et notamment plein d'autres insectes. Donc c'est des habitats de chasse à part entière. On peut avoir des espèces qui vont avoir un territoire de chasse extrêmement réduit, et par exemple ne chasser qu'autour d'un arbre ou deux, et en fait après elle va exploiter donc, peut-être plusieurs territoires de chasse au cours d'une nuit, mais elle peut vraiment chasser sur un arbre ou autour d'un arbre en particulier. Donc pour les espèces qui s'éloignent le moins, ça peut rester dans le premier kilomètre, dans les 500 premiers mètres autour de son gîte pour chasser, pour la nuit. Et d'autres, par contre, qui peuvent aller beaucoup plus loin, faire 40 km et revenir après à son gîte. Là aussi, on a des gros écarts entre chaque espèce. Donc une population s'établit à un endroit, donc il faut un gîte favorable, des habitats de chasse de qualité autour, donc d'avoir de la ressource alimentaire en abondance. Et surtout en reproduction, où les chauves-souris ne vont pas forcément aller très loin quand les petits sont nouveau-nés. Mm-hmm. Là, il faut qu'il y ait des habitats de chasse avec de la ressource en abondance proche, quoi. Et ensuite, il faut les axes de déplacement, donc avoir un bon réseau de haies ou des repères, en tout cas dans le milieu, pour se déplacer. Et si, par exemple, on imagine une grande forêt et qu'on a des coupes d'un coup qui se font de façon un peu intensive et qu'on coupe justement ces actes de déplacement, en fait, on peut se retrouver avec des populations qui, au fur et à mesure, vont se retrouver isolées et donc qui vont dépérir puisqu'il n'y aura plus du coup de brassage génétique et il n'y aura plus ces échanges, quoi. Mmh. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est que plus on va avoir des forêts diversifiées, en tout cas des milieux diversifiés, et que ce soit pour la chasse, le transit ou le gîte, et plus ça permettra à une diversité d'espèces de s'y plaire et de les retrouver. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du programme donc, de l'étude des vieux arbres, mais qui permet de faire cette animation. Les chauves-souris, ce n'est pas des espèces qu'on observe facilement. Faut s'y prendre à plusieurs fois parfois. Donc, ce n'est pas toujours simple de savoir ce boisement-là, est-ce qu'il est favorable, est-ce que c'est bien pour les chauves-souris ou pas. Donc, on va avoir des espèces qui sont bio-indicatrices. Donc, par exemple, la chauve-souris en est une. C'est-à-dire que si je suis dans un secteur, j'ai un détecteur à ultrasons, et que là j'ai beaucoup d'espèces différentes, il y a beaucoup d'activités de chasse, enfin vraiment il se passe des choses, je me dis super, là c'est que j'ai beaucoup d'insectes, ça veut dire que ce milieu il est bien connecté aux autres habitats et qu'il y a sûrement un gîte qui n'est pas trop loin. Donc ça m'indique que mon milieu, il a un bon état écologique. Mais bon, les chauves-souris ne sont pas toujours simples à identifier, et donc on a d'autres espèces, et on a notamment, je pense que vous le connaissez, c'est le lucane cerf-volant. Et la rosalie aussi, mais ici ce sera plutôt le lucane, qui en fait indique aussi la présence de vieux arbres, puisque les larves vont se développer donc, dans le tronc des arbres. Et donc le fait d'observer ces lucanes, ça nous dit, là on a des vieux arbres, on a du vieux bois, et donc potentiellement on a une bonne biodiversité ici. Donc il y a une enquête participative qui est portée par l'OPI, et qui est relayée par l'ensemble du réseau. Donc, je ne sais pas si parmi vous, vous saisissez déjà vos données, vos observations naturalistes, mais il existe donc une application qui s'appelle Naturalist, où c'est la même chose, mais sur ordinateur faunelimousin.org. Et donc ça permet de saisir vos observations, soit en temps réel sur le terrain, soit a posteriori. Et vous pouvez dire, donc, par exemple, que ce soit des oiseaux, des insectes, enfin, tous les taxons peuvent être saisis, et dire comme ça vos observations. Et ces données-là, derrière, ça permet aux associations naturalistes en fait, d'avoir la connaissance du terrain et de mieux le protéger et de prendre en compte ces données. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous croisez des lucanes, à les saisir. Pour le coup, c'est une espèce qui se reconnaît assez facilement, qui est en plus assez bruyante. C'est un vol un peu bon. N'hésitez pas à faire remonter vos observations. L'application, c'est pour tous les taxons, toutes les espèces. Oui, alors là, pour identifier ça, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, d'identifier les adultes.
Voilà. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas vu, et là, cette année, on en a vu. L'année dernière aussi.
Ouais. Des lucanes ? Oui. Ah bah super. Ouais. Donc souvent dans les vieux chênes.
Tous les ans.
D'accord.
Tous les ans. Ouais. Alors je sais pas s'il y a des années plus favorables ou si ça met un certain temps avant de revenir, un peu comme la cigale qui met beaucoup de temps avant de sortir.
Oui, après normalement, enfin, tous les ans il y a des émergences. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être que il y a peut-être une année où les conditions étaient moins bonnes aussi pour la ponte. Voilà, donc c'est pas tout à fait des chauves-souris, mais c'est des bons indicateurs pour les habitats des chauves-souris. On a fait des affiches pour communiquer dessus et pour apprendre à identifier. Mais bon, je ne m'étale pas plus dessus. Et pour terminer, avant de se balader dehors, donc on a parlé pas mal des habitats, de ce qui est recherché, tout ça. On n'a pas trop parlé des menaces encore pour les chauves-souris. Mais du coup, c'est facile, c'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir. Donc, pour les prédateurs des chauves-souris, on a par exemple celle-ci, adorable, qui est pas dévastatrice, voilà, la martre. C'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est des exemples. Donc la chouette effraie.
Le chat.
Sacré chat. Et le pire de tous. Voilà.
Et l'autre individu à droite.
Ouais, le pire.
C'est bon pour l'homme.
Comment ?
Pourquoi l'homme ?
Pour toutes les activités humaines, finalement.
C'est pas directement, c'est indirectement.
Il peut y avoir des destructions directes aussi. Ouais. Alors, c'est de la bêtise. Souvent, il y a eu des cas où il y a des gîtes qui étaient suivis, et puis finalement, à un passage, on se rend compte que il y a eu des joueurs de paintball qui sont venus et qui ont tiré partout. Donc, on a des cas de destruction comme ça. Mais ça, c'est des cas. C'est pas tous les jours que ça arrive, bien sûr. C'est souvent des enfants qui jouent. Voilà. Mais il peut y avoir des cas directs. Il y a aussi les collisions routières. Mmh. Et ça, on s'en rend pas trop compte parce que c'est assez léger une chauve-souris. Donc finalement, il y a l'impact et puis ça se disperse. Et puis après, il y a aussi les éoliennes, l'éclairage. Puisque les espèces tolèrent plus ou moins l'éclairage. Il y en a qui vont vraiment être lucifuges ou du coup, ils ne pourront pas traverser si c'est trop éclairé. Ou en tout cas, vont vraiment retarder leur sortie en gîte. Leur sortie de gîte pour aller chasser. Donc le fait de décaler leurs horaires de sortie, forcément, après, les insectes sont aussi moins présents. Donc c'est aussi, pour le coup, c'est très indirect, mais c'est quand même un impact. Et puis, tout ce qui va être aussi les coupes rases, l'agriculture intensive en open field, où là, on n'a plus tout de repères dans l'espace, il n'y a plus de réseau de haies. Pour la forêt, on coupe aussi des ressources en gîte et des ressources alimentaires aussi, bien sûr. Voilà, et les pesticides. Voilà. Ils mangent des insectes. Oui.
Vous avez dit par rapport au bocage, elles se servent de haies comme des routes, en fait, finalement.
Oui, complètement. C'est ça, c'est des axes de dispersion, en fait, c'est des vrais repères. Et c'est aussi des habitats de chasse, elles peuvent aussi chasser à ces endroits-là. Ouais.
Au niveau des éclairages dans les villes, j'avais entendu qu'il y avait une étude pour essayer d'adapter les lampadaires, ça, pour éviter que ça. Nuise trop à la faune et notamment aux chauves-souris. Est-ce qu'il y a des. Concrètement, au niveau forme des lampadaires, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça donne?
Mais alors, ça, c'est la première mesure qui est mise en place. Et maintenant, il y a même des lois là-dessus. Hein. Les premières recommandations, c'est d'avoir juste la photo moyenne, mais d'avoir des lampadaires qui ne sont pas orientés vers le haut, quoi, pas bien éclairer le ciel. Donc, ça éclaire vers le bas. On réduit aussi l'intensité des lampadaires et aussi la couleur de l'éclairage, en fait. Plutôt que de mettre des lumières blanches, on va revenir vers des éclairages plutôt jaunes qui sont moins dérangeants.
Okay.
Il n'y a pas forcément de mettre un lampadaire tous les 10 mètres, mais de les espacer un peu plus. Que les axes qui sont pas ou peu fréquentés, de moins les éclairer aussi et de couper à une certaine heure.
Si on parlait que les chauves-souris étaient porteurs d'éclairage ou
de
maladies comme ça.
Ouais, en fait,
c'est toujours vrai.
C'est toujours vrai. Ouais. Les chauves-souris, c'est les derniers animaux sauvages qui peuvent être porteurs d'une forme de rage. Il y a plein de virus différents qui découlent de cette même famille, la rage, quoi. Donc il y a des études qui sont faites tous les ans, notamment dans le programme de capture dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'il y a on capture les chauves-souris en sortie de gîte, donc on travaille aussi avec l'Institut Pasteur, et il y a des prélèvements, en fait, qui sont faits pour savoir qu'est-ce qu'on retrouve en virus, où ce qu'on est. Donc tous les ans, il y a des rapports qui sont publiés. Voilà.
Et la transmission, elle est bien, s'il n'y a pas de.
En fait, la chauve-souris est souvent un porteur sain des virus. Il peut y avoir des individus qui déclenchent la maladie. Alors ça, à vrai dire, je ne savais pas trop vous répondre pourquoi certains la déclenchent et d'autres pas. Et après, donc, si on doit manipuler une chauve-souris, si par exemple on trouve une chauve-souris en détresse, toujours mettre des gants ou un tissu, mais pas la toucher à main nue. Voilà. Et si jamais il y a griffure ou morsure, là, c'est d'abord, on se lave bien les mains avec du savon, on désinfecte, et on va se faire prendre une petite picouse.
Par la tétanos ou quoi?
Pour la rage. En fait, on ne prend pas de risque là-dessus. Même si ce n'est pas exactement le même virus, il y a eu exposition, on ne cherche pas. On fait la petite piqûre et on n'en parle plus.
Oui, c'est pareil.
Non, tu sais, c'est direct.
Un moyen de savoir qu'il y a des chauves-souris, c'est quand on voit qu'il y a plein de crottes.
Oui, complètement.
Et il faut faire attention si on doit nettoyer. Les crottes. Oui, j'ai entendu ça aussi.
Du coup, la crotte de chauve-souris, ça se reconnaît bien parce que, à la différence d'une crotte de souris, c'est friable. Ça s'effrite très bien quand on appuie dessus. Ouais. Parce que ça mange que des insectes, donc ça n'a pas de liant dedans. Ça n'a pas le même goût non plus.
Je rigole. On mange pas le guano.
Oui.
Au niveau de la mortalité des jeunes,
Ouais.
Est-ce qu'il y a, enfin, il y a beaucoup qui arrivent ou pas à l'âge adulte ou...
Eh ben, ça dépend. Je connais pas les ratios, mais ça dépend forcément des saisons, de la météo.
Il y a des maladies qui sont...
Oui, alors assez peu quand même en France. Il y en a une surtout dont on parle pas mal, mais c'est plutôt en Amérique avec le syndrome du nez blanc, donc qui est un petit champignon, et en fait ça a été aussi déplacé. De grotte à grotte, et notamment d'Europe, de France métropolitaine, jusqu'en Amérique, dans les cavités, par rapport au matériel des scientifiques et des spéléologues. Voilà. Oui. Et du coup, ce qui a été assez dramatique, il y a eu beaucoup de pertes, parce qu'en fait, c'est un virus où chez nous, les chauves-souris étaient adaptées. Et là-bas, pas du tout, donc forcément, voilà. Et il y a eu aussi... là, je ne maîtrise pas très bien le sujet, mais il y a une zoonose aussi assez importante fin des années 1900, où il y a eu beaucoup de pertes aussi sur le Minioptère de Schreber, qui est une espèce qui est extrêmement grégaire, cavernicole, et qui donc fait des grandes colonies. Donc forcément, il y a des impacts aussi très rapidement sur les populations dès qu'il y a des virus ou de la mortalité. Voilà. Et je vous propose de continuer ces beaux échanges dehors, avec un détecteur pour entendre les chauves-souris. Voilà. Donc, par exemple, là, les sérotines ou les noctules, ça va émettre entre 20 et 30 kHz. Alors, je vais laisser un peu le son, parce que ça va... Entre 20 et 30 kHz. Et donc, elles vont avoir différents cris. Là où elles sont difficiles à distinguer, c'est quand elles font ce qu'on appelle des fréquences modulées aplanies. C'est un peu des noms barbares dit comme ça, mais c'est des cris en fait de recherche active. Et donc si on a que ça, des fois on peut pas trancher en fait entre les deux genres. Mais par contre, si on va avoir des comportements par exemple d'alternance, donc on va avoir un cri modulé, donc ce fameux cri de fréquence modulée aplanie, suivi d'un ce qu'on appelle une fréquence constante, d'une quasi-fréquence constante. Donc là, ça va être des cris qui vont être longs, très longs et très peu modulés. Et donc en sonorité, on va avoir des choses très différentes. Et donc, elle va émettre ces deux types de signaux, à chaque fois, un sur deux. Donc ça va bien s'entendre à l'oreille. Et ça, par exemple, la sérotine ne le fait pas. Donc si j'entends ça, je sais que c'est une noctule. Ensuite, il n'y a plus qu'à caler les différentes fréquences et je peux trancher quelle espèce il s'agit. Selon ça va crier plus ou moins longtemps aussi, on peut savoir quelle espèce il s'agit. Il y a plein de critères différents. Voilà, super, on va continuer. Ça repasse. Donc elle est en train de chasser dans l'allée là. Donc là on a une pipistrelle commune qui est en chasse. Est-ce que vous entendez bien tous ? Super. Donc là vous avez vu, c'est pas un rythme qui est régulier. On entend des phases d'accélération et de ralentissement un peu. Donc ça va être les phases d'approche, quand la chauve-souris va se rapprocher d'un obstacle, ou même de nous, en fait, et qu'ensuite elle va repartir. Ces variations de rythme, ça nous permet de savoir est-ce qu'elle est en recherche active, est-ce qu'elle est en train de chasser, est-ce qu'elle vient de capturer. Puisqu'une capture, on pourra l'entendre aussi, peut-être tout à l'heure. Et on va avoir là des cris qui sont quand même assez secs. Plus une chauve-souris va être en recherche active, donc soit d'obstacles, soit de proie, plus elle va avoir besoin d'un retour très rapidement de ses cris pour être réactive en fait, tout simplement. Donc là, elle va faire des cris qui seront très courts et très rapprochés dans le temps, pour aller rapidement. Donc on va avoir un rythme qui est rapide et assez sec. Et par contre, si elle vole en plein ciel, qu'il n'y a pas d'obstacles, a priori il n'y a pas de nourriture non plus, là, elle ne s'embête pas trop, elle va faire des cris qui seront beaucoup plus longs, qui vont être beaucoup plus longs et qui vont lui permettre de voir en fait plus loin dans l'espace, mais avec un peu moins de détails. Et donc là, on aura une sonorité qui sera beaucoup plus ronde en fait, comme une grosse goutte d'eau qui explose. Pour identifier en direct nos chauves-souris,
Donc là, on sert on a une petite molette qui nous permet de... Donc on a ce qu'on appelle, on appelle ça une porteuse. C'est un petit cran qui me permet donc que je déplace sur les fréquences. Donc avec ma petite molette, je me balade. Par exemple, la pipisserelle commune, là je l'entends bien, on est autour de... J'ai mis ma porteuse à 45 kHz, ou en tout cas proche. Et en fait, pour identifier ces espèces, on va rechercher grâce à cette molette une sonorité. Une sonorité qui va être la plus grave possible pour la chauve-souris, qu'on va appeler le battement zéro. Et en fait, c'est l'endroit sur la fréquence où l'intensité de l'émission, l'intensité de l'énergie du cri, va être la plus importante. Et c'est cette fréquence-là qu'on va regarder pour discriminer un peu le groupe d'espèces auquel on pourra avoir affaire. Donc, par exemple, si je me décale en fréquence, si je descends un peu, je ne vais plus avoir la même sonorité par rapport à cette pipisserelle qui tourne. Là, vous avez vu, c'est beaucoup plus aigu. Donc là, je suis descendue un petit peu. Et si je remonte... Là, c'est de nouveau un peu plus grave. Là, ça fait le to-to-to-to-to. Alors, on parle beaucoup en onomatopée. On n'a pas toujours l'air très intelligent. Mais généralement, c'est ce qu'on dit quand on est au battement zéro. Ça fait to-to-to. Si je m'écarte un petit peu plus bas, on va voir un truc qui va faire ti-ti-ti. Si je monte plus haut, on aura des plis-plis-plis. La nuance est fine, mais elle est importante. Et donc ça me permet, parce que forcément on imagine que là j'ai plein d'autres espèces qui passent en même temps, je peux pas à chaque fois bouger ma porteuse dans tous les sens, ça va être compliqué pour faire les inventaires. Mais si je sais que là, par exemple, je me trouve à 47 kHz, si j'entends une sonorité beaucoup plus aiguë, avec des sonorités soit en titi ou en pli-pli, ben, je vais savoir qu'il y a une espèce qui se balade soit plus haut que 47, soit plus bas. Voilà. Donc ça permet de me guider comme ça et de savoir à qui j'ai affaire. Bon, après, on est rarement 47, donc on se balade quand même aussi un peu pour savoir si jamais il y a des bêtes qui traînent plus bas ou un peu plus haut. Généralement, on se met autour de 40-41 quand on cherche comme ça. C'est un peu la fréquence où on peut capter le plus d'individus. Voilà. Donc là, ce qu'on entend, c'est toujours de l'hétérodyne. Donc j'ai fait un petit enregistrement... pour pouvoir vous faire écouter. Donc là, le temps est multiplié par 10. Donc c'est la chauve-souris qu'on a entendue là à l'instant. C'est vraiment les cris aigus qu'on entend. Donc vous avez vu, c'est pas du tout les mêmes sonorités qu'à l'hétérodyne. Et donc en fait, le fait d'avoir ce deuxième système de retranscription de l'ultrason, ça nous permet après derrière d'avoir d'autres critères acoustiques en fait pour analyser et avoir d'autres indices quoi. Voilà. Donc on va repartir dans l'hétérodyne. J'essaie de faire un meilleur enregistrement que ça quand même. C'était pas terrible. Mais ça fait partie du jeu.
Ça, c'est un tout temps à débat entre des inventaires.
Donc là, les chauves-souris qu'on a entendues, donc c'est des pipistrelles et de la serotule. Donc. C'est des chauves-souris qui font... c'est un peu le même groupe acoustique dans les sonorités qu'on va entendre. Un autre grand groupe, ça va être des murins, des barbacelles et des oreillards, puisque donc, ces trois genres d'espèces vont faire des cris qui vont être abrupts. Donc ça veut dire que si on... Alors, parce que du coup, on analyse aussi beaucoup selon la forme des signaux. Quand on est après au bureau, qu'on regarde sur les logiciels, les enregistrements. Donc, il faut imaginer, par exemple, les pipistrelles qu'on a entendues tout à l'heure, ça fait comme une virgule, comme une crosse de hockey en forme de signal. Ça, on appelle ça une fréquence aplanie. Et à l'inverse, par exemple, mes murins, ils vont faire des cris qui vont être très courts et qui vont être tout droits, comme une barre. Et donc ça, acoustiquement, ça ne va pas du tout faire la même sonorité. La pipistrelle, donc ça fait un cri qui va être assez rond, comme une goutte d'eau, un peu humide. Et les murins, quand ils vont passer, là, ça va faire un cri très sec. Alors, comme les pages d'un livre qu'on ferait défiler très vite, ou comme une carte qu'on accrocherait dans les rayons d'un vélo, par exemple. Alors là, c'est une sérotine, du coup. Donc, sérotine commune qui est quand même bien plus grosse que les pipistrelles. Hein. Oui. Ouais. Ça fait partie des plus grosses espèces. Et les pipistrelles les plus petites pour le coup. Donc, Du coup, il y a peut-être bien une colonie de sérotines dans le coin. Si jamais vous les voyez. Il y a carrément des espèces qui vont utiliser l'écoute active aussi, puisqu'ils vont chasser à l'oreille, donc en entendant par exemple les insectes marcher dans la litière. Ils les repèrent comme ça en fait.
Les chouettes, ça ne rend pas la même façon.
Oh, vaste question. Je ne sais pas. Aucune idée. Alors après, les chouettes ne chassent pas vraiment les chauves-souris. Hein. C'est pas, en fait, je pense que déjà en vol, ce serait beaucoup plus compliqué pour elles de chasser une chauve-souris qu'un micro-mammifère qui a repère loin. Quoi. Donc en fait, la prédation des chouettes sur les chauves-souris, c'est surtout en fait, si la chouette elle se retrouve par exemple enfermée dans un clocher et qu'il y a aussi une colonie, ou si elle repère la sortie d'un gîte. En fait, c'est pareil, c'est très opportuniste. Mais par contre, il va y avoir pas mal de dérangements. Par exemple, s'il y a une colonie et que d'un coup, il y a aussi une chouette qui vient s'installer, puisqu'elles vont être quand même sur les mêmes milieux, les mêmes habitats, notamment pour la chouette effraie. Et donc là, ça peut faire fuir la colonie. Il y a un peu de compétition quoi, dans ces milieux-là. Mais il n'y a pas vraiment de prédation, ou c'est assez rare.
Ce qui les intéresse, c'est surtout d'entendre le bruit de la distance.
Qu'on a nous d'identifier quel type de chauve-souris passe chez nous.
Avec un détecteur ou sans détecteur?
Sans détecteur déjà.
Ah bah là, il faut les avoir en gîte.
D'accord, oui, mais là, c'est pas le cas. Nous, ouais. On en a plein qui sont autour, mais elles sont juste en chasse, je pense.
Ouais, mais alors en vol, c'est très dur de les identifier. Hein.
D'accord.
Après, les naturalistes qui ont vraiment beaucoup d'expérience de terrain, détecteurs ou même en capture, qu'ils ont vraiment beaucoup observé, ils peuvent dire au comportement de vol et un peu à la silhouette aussi, parce que selon leurs habitats de prédilection, elles vont être plus ou moins adaptées aussi physiquement. Ils peuvent dire un peu de quelle espèce il s'agit, mais c'est vraiment très dur.
Et avec le détecteur,
beaucoup plus simple.
Même à novice.
Même, oui, parce qu'en fait, très rapidement, ce qu'il faut faire en fait, au début, c'est de se balader sur les fréquences et écouter. Donc, et en fait, là, on se fait une petite bibliothèque de sons. Et donc, très rapidement, on va pouvoir dire « Ah, mais ça, c'est pas la même bête. Enfin, celle-ci, je l'ai pas entendue. Ça, ça change. » On peut chercher donc, notre battement zéro, donc en se baladant avec la porteuse, pour chercher donc, ce point de maximum d'énergie. Voilà, ça, c'est les premières étapes pour commencer un peu à s'entraîner. Et ensuite, on peut discriminer les espèces, savoir à qui on a affaire. Et on peut faire des enregistrements. Et vous pouvez nous envoyer des enregistrements, on sera ravis de vous dire aussi de quoi il s'agit. Et le GMHL organise, alors pas que le GMHL, mais entre autres le GMHL avec tous les assos de Nouvelle-Aquitaine. Chaque année, il y a un week-end de formation et d'initiation à l'acoustique. Donc il y a un week-end, enfin il y a un premier niveau d'initiation pour découvrir l'acoustique et s'y former. Et après, il y a un niveau 2 pour les personnes qui pratiquent déjà mais qui ont besoin de se perfectionner. Voilà. Donc ça, c'est tous les ans, en début de saison. Et puis après, nous, on fait régulièrement des inventaires acoustiques et on est ravis s'il y a des gens qui veulent venir avec nous, nous accompagner. Voilà. C'est avec plaisir.
Voilà. Est-ce qu'il existe des bases de données libres de droit où on peut écouter, justement? Si on allait, on
achète ça et on peut... Complètement. Sur le site du muséum. Je suis pas sûre que ce soit accessible en ce moment parce qu'ils sont fait pirater. mais sur le site de. Bah après, sinon, sur. C'est vrai que moi, je vais beaucoup sur le site du muséum. Sinon, il doit y avoir des bases acoustiques assez facilement. Moi, j'ai une application aussi avec des sons enregistrés, si vous voulez. Et sur le site aussi Écologie Acoustique. Donc, qui est le site de Michel Barato qui a développé toute la méthode d'identification par l'acoustique. Il y a aussi toute une bibliothèque de sons qu'on peut avoir. Et là, il y a une petite application qui s'appelle... qui n'a pas de nom. Bon sang. Qui s'appelle Batlib, je crois. Oui, c'est ça, Batlib. On peut écouter des chauves-souris aussi.
J'en ai une autre.
Là, ça s'entend bien. Et là, on en... Ouais, donc là, c'est la grande noctule. Donc pareil, là, des comportements acoustiques, si je ne sais pas à quelle fréquence je me situe quand j'entends ça, c'est difficile de trancher. Mais la grande noctule, si j'entends ça et que je suis en dessous de 20 kHz, je suis sûre. Je suis heureuse d'ailleurs. Très heureuse si j'entends ça. voilà. Et d'ailleurs, donc là, on entend qu'il y a l'alternance. Après, on entend qu'on a une phase un peu d'approche. Donc c'est la même séquence. Ouais, à la fin. Hop, qui est-ce qu'on va encore écouter? Alors, ah ben les oreillards, tiens. Donc pareil, les oreillards en écoute active, pas semble du tout. Donc ça fait aussi comme les murins décrits qui sont très abrupts, très hachurés, mais qui vont être beaucoup plus réduits sur la plage de fréquence sur laquelle ils vont être émis. Donc on parle de largeur de bande. Donc eux, ils vont avoir une largeur de bande très courte. Hop. Ah, mais ici, quand même. Il y a une espèce, un groupe d'espèces. Là, je vous le fais. Il y en a qui le connaissent ou pas? C'est le grand rhinolophe. Donc les rhinolophes, on en a parlé rapidement, ils ont un nez un peu particulier qui leur vaut leur nom. Donc c'est une feuille nasale en fait avec différents appendices qui leur permettent d'émettre des ultrasons et donc ils peuvent faire des fréquences continues qui ont donc cette sonorité là qui est très particulière, un peu de soucoupe volante. Voilà. Voilà, donc là c'est pareil, quand on entend ça, bon bah on est sûr de qui c'est.
Oui, finalement, on dormirait pas si on entendait ça.
Ah oui, bah ça, là c'est en expansion de temps aussi. Donc, quand on les entend en hétérodyne, ceux-là, ils ont un cri qui est beaucoup moins agréable, ça fait en fait un sifflement très aigu, finalement. Donc bon. Mais c'est quand même chouette de capter ça. Surtout que c'est pour le coup des espèces qui n'ont pas une grande portée d'émission. Ils ne vont pas crier très fort. Donc pour les capter, il faut vraiment être proche. Il faut vraiment qu'ils nous passent devant le micro, quoi, qu'ils viennent chanter. Et là, on peut les avoir. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez le nombre d'espèces qu'on a en Limousin, les chauves-souris?
16, je crois.
Oh, non. Pas 16. Plus. Moi. Combien?
25.
Un poil plus. 26 officiellement, puisque de façon officieuse, on pourrait monter à 28 avec la sérotine bicolore et l'oreillard montagnard. Voilà. Mais il faut encore prouver leur présence vraiment. Donc ils ont été contactés acoustiquement. Il y en a un qui est quasiment sûr. Et pour l'autre, on voudrait faire des captures, en fait, pour avérer la présence de l'espèce. Voilà. Ici même. Pour l'oreillard montagnard, donc. Voilà. On a fait un premier test il y a quelques semaines, mais on ne l'a pas croisé. Mais on ne perd pas espoir.
C'est que du coup, il aurait été contacté à La Chaux, sur le site de La Chaux à Royère.
Oui.
Et aussi là, lors du suivi de l'ABC à Truffy. Il y a d'autres endroits.
Mais toutes les parcelles où on a fait la capture, je ne sais pas du tout les noms.
Oui,
c'est La Chaux.
La Chaux.
Voilà. Et après, je ne sais pas trop. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus là, donc il va falloir rattraper. Voilà.
Merci.
Bah, avec grand plaisir. Merci à vous.
C'est super intéressant.
Tout mieux. Et si vous voulez faire des comptages, que ce soit l'hiver, l'été, des écoutes, n'hésitez pas, il suffit juste d'adhérer au GMHL et comme ça vous avez accès à tous les groupes, parce que du coup on diffuse plutôt par groupe, sinon ça fait beaucoup d'infos. Donc après si vous êtes intéressé pour faire des sorties, ça peut être chiro, mais ça peut être aussi amphibien, reptile, micro-mam, faire du dépouillage de pelote aussi, c'est ça, l'hiver, voilà, n'hésitez pas. Avec plaisir, merci à vous.
Voilà qui conclut ce 12e épisode des Drosera, les podcasts qui aiment les vivants. J'espère que cette immersion dans un univers des chauves-souris vous aura donné envie de regarder la nuit autrement, peut-être d'étendre l'oreille lors de vos prochaines balades crépusculaires. Un grand merci au GMHL et à l'association Les Champs des Possibles pour cette soirée riche en découvertes. Merci à Camille et à Romane et à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Drosera pour les prochaines aventures.